18-19, le magazine.
Et bonsoir, chers auditeurs, poètes du volant, de la cuisine, de l'argot. Vous êtes sans doute vous-même des poètes, sans le savoir. Aujourd'hui, on va parler d'un poète. En fait, la poésie est une science exacte, se plaît à dire Dominique Pagani. La poésie, comme la science, peut chercher à dire le vrai, à le faire comprendre, à le dévoiler. La poésie, elle est au cœur d'ailleurs de lutte pour l'émancipation. On le sait avec, par exemple, des chansons comme « Le temps et les cerises » et « L'international », des poètes comme Mayakovsky, Aragon et Éluard. Également Marx, dans ses écrits, on y trouve de la poésie. Un exemple, la critique a effeuillé les fleurs imaginaires qui couvraient la chaîne, non pas pour que l'homme porte la chaîne prosaïque et désolante, mais pour qu'il secoue la chaîne et cueille la fleur vivante. Et on en a plein d'exemples de ce type. Mais c'est pas de poésie tellement qu'on va parler aujourd'hui finalement. On va parler de Louis Aragon, qui est né en 1887 et mort en 1982. Il a donc traversé le XXe siècle. Aragon est connu comme étant un poète, un résistant. Aragon est aussi un journaliste en fait, et on va parler de Aragon journaliste, et vous allez voir, c'est très très instructif, y compris sur des combats que l'on peut avoir à mener aujourd'hui. Pour parler donc de Louis Aragon journaliste, avec nous ce soir François Échard, secrétaire général de la Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet, qui va donc nous parler de Aragon journaliste sur la base en fait d'une série d'ouvrages dont certains viennent de sortir. Donc un qui est plus ancien, de 2008, paru au Cherche Midi, c'était « Les lettres françaises et les étoiles Monsieur Richard nous le précisera. Et surtout, donc, deux annales de ces articles de journaux. Donc Aragon, un jour un monde, en deux tomes, paru en 2017 et 2018, qui sont passionnants. Bonjour François Échard. Alors Aragon, plutôt connu comme poète, comme romancier, pour certains c'est l'auteur de chansons assez célèbres de la Résistance. Et voilà la publication de deux volumes de ses articles de journaux qui montrent qu'il est aussi un journaliste et un grand journaliste. Alors comment se fait-il qu'on ne prenne connaissance de cet aspect de son œuvre si tardivement?
Écoutez, la question est un peu compliquée, mais en gros, on peut dire qu'Aragon est un homme dont l'œuvre est en partie méconnue et qui est l'objet d'un refoulement dans les institutions pendant très longtemps, dans les masses médias encore à l'heure actuelle. On tient à chaque fois qu'il est question de lui à le caractériser comme un stalinien ou des choses comme ça, choses qui ont très peu à voir avec la réalité. On n'a rien pu faire contre son succès de poète, puisque une partie de sa poésie a été mise en chanson et est devenue extrêmement populaire, et qui n'a pas entendu et qui ne s'est pas ému des chansons d'Aragon chantées par Ferré, par Ferrat et par bien d'autres, Marc Augeret par exemple, qui est mort il y a 2 ans, qui était un très beau chanteur. Par contre, son œuvre de journaliste, dans la mesure où c'est une œuvre de combat, pose davantage de problèmes. D'ailleurs, il n'y a pas que l'œuvre de journaliste d'Aragon qui pose problème. Une partie même de son œuvre de romancier n'a jamais eu beaucoup les faveurs des critiques et même des éditeurs. Je veux par exemple dire que son grand roman, le roman le plus populaire qu'il ait écrit, celui qui était le plus en mesure de toucher un très vaste public, qui s'appelle justement « Les communistes », en référence à son passé, à son histoire et à ses opinions. Ce roman, qui est en 6 volumes, n'a pas été pris chez Gallimard, et même quand il était question chez Gallimard de publier les œuvres romanesques complètes d'Aragon, eh bien, ça a posé des difficultés. Gallimard était beaucoup moins sensible à l'intérêt de publier les éditeurs de chez Gallimard, je ne vais pas dire M. Gallimard lui-même, a publié ce livre, et par conséquent, on l'a publié non pas en un seul volume comme il aurait dû l'être, mais sur 2, ce qui fait que les gens qui veulent l'acquérir doivent maintenant dépenser 140 euros, c'est une somme assez dissuasive. Et pour son œuvre de journaliste, c'est absolument la même chose. qui fait que moi, en tant qu'éditeur de ces œuvres dans le cadre des travaux de la Société des Amis Louis Ragon et Les Atriolés, j'ai décidé d'en entreprendre la publication avec l'accord de l'ayant droit, l'héritier Jean Rista. Et donc, j'ai publié il y a ça 2 ans les chroniques d'un jour du monde qui vont de 1938 à partir des accords de Munich jusqu'à 1939, c'est-à-dire l'interdiction politique et administrative du journal Ce Soir. Voilà ce qui explique les difficultés d'avoir connaissance des textes d'Aragon. C'est principalement son caractère pugnace et combatif, et ce genre de combativité ne plaît pas forcément toujours.
Alors, ces articles, est-ce qu'ils appartiennent tous en fait au domaine politique ou quels sont les champs sur lesquels...
Alors, Aragon n'a pas touché qu'au domaine politique. Aragon est d'abord un écrivain, et dans les années 20-30, en tant que surréaliste, en tant que dadaïste, il écrit dans la presse, dans les revues. Les articles de revues sont des articles de journalisme quand même, c'est pas la même chose que des romans ou des poèmes. Ça touche plutôt des questions littéraires, des questions intellectuelles, des questions philosophiques, des choses comme ça. Bon, en fait, Aragon bascule dans le journalisme plus clairement politique lorsqu'il adhère au Parti communiste et qu'il devient journaliste à l'Humanité. À l'Humanité, dans les années 32, 33, 34, il fait les chiens écrasés, fait des affaires de justice, de police, des choses comme ça. Et son destin de journaliste change de façon très sensible lorsqu'il aura la responsabilité, avec un autre écrivain qui s'appelle Jean-Richard Bloch, de créer, constituer et développer un quotidien du soir qui s'appellera Ce Soir. Voilà. C'est à ce moment-là que, disons, la tonalité politique chez Aragon l'emporte sur la tonalité littéraire. Ensuite, si l'on veut balayer son œuvre jusqu'à la fin de sa vie, il reprendra Ce Soir après-guerre, mais surtout la grande période de son activité journalistique littéraire, ça sera quand il dirigera, à partir de 1953, les Lettres françaises, jusqu'à la disparition de celle-ci en 72.
D'accord. Alors, vous disiez, alors c'est quand même une période, les années 30 et la guerre, de la fois terrible, mais en même temps d'immenses progrès sociaux, le Front populaire, les nationalisations de la SNCF qui viennent d'être quasi définitivement détruites par la privatisation là au 1er janvier de ce qui restait de l'entreprise. C'est également bien sûr toutes les conquêtes de la libération. Pendant ce temps-là, pendant cette période, il était rédacteur de Ce Soir. En quoi Ce Soir était aussi un quotidien de combat ?
Ce Soir était un éminent quotidien de combat. D'ailleurs, il a été fondé par la direction du Parti communiste. C'est le rôle de Maurice Thorez dans cette affaire, avec des objectifs très précis. Le premier objectif, c'était de casser... Il était fondé en 1937, donc le Front populaire était déjà sur les rails, mais aussi il commençait à avoir, disons, ses premières difficultés. Bon. Donc il s'agit de casser le monopole de la presse de droite, qui était extrêmement virulente et qui était extrêmement puissante. Regardez, un journal comme Le Matin, qui était très à droite, tirait à 300 000 exemplaires, L'Œuvre à 350 000, Gringoire, une saloperie raciste, antisémite et tout, tirait à 500 000, Le Journal, qui était un journal de concierge de très bas niveau, etc., et très, très, très réactionnaire, tirait à 400 000. Donc il y avait... Et je ne parle pas de la presse de province, qui aussi était du même niveau et aussi répandue. À l'époque, il n'y avait pas de télévision, la radio était beaucoup moins répandue que maintenant, et par conséquent, les journaux étaient un moyen essentiel d'information, ce qui explique ces tirages importants qui n'ont plus de correspondance maintenant, même dans le spectre politique considéré. Donc il s'agissait de casser le monopole de la droite. Contre, en face, il y avait quoi ? Il y avait l'Humanité, mais qui était un journal très considéré comme très politique, le journal du Parti communiste. Il y avait le populaire de la SFIO, mais aussi qui avait le handicap d'être un journal de parti. Et en ce qui concerne les journaux d'opinion non référencés politiquement, c'était le monopole de la droite. Donc, Ce Soir avait comme objectif de casser le monopole de la droite, et notamment du journal qu'on appelait Le Matin et Paris Soir. Okay. Et de ce point de vue-là, ils sont arrivés à des ventes avant d'être interdites qui avoisinaient les 250-300 000 exemplaires. Ils ont brillamment réussi. Ça, c'est pour l'objectif journalistique. Ensuite, au niveau politique, eh bien, le problème, c'était la défense des conquêtes du Front populaire. Or, déjà, avec Daladier, ces conquêtes étaient en grande difficulté. Bon. Il y avait aussi le problème de la défense de la République espagnole, qui luttait contre Franco, et ce soir a mené une campagne admirable et remarquable à tout point de vue, y compris avec des reportages photographiques sur ce qui se passait en Espagne, avec des gens comme Capa ou bien Gerda Taro. Bon. Ensuite, il y avait la défense même des intérêts de la France menacée par la montée des puissances fascistes, contre lequel on ne peut pas dire que Daladier ni l'Angleterre aient fait grand-chose, bien au contraire, on le verra peut-être tout à l'heure. Enfin, il y avait aussi la défense du rôle de l'Union soviétique, qui a joué un rôle important en Europe, notamment dans les problèmes de guerre et de paix, c'est-à-dire la puissance des Allemands, de l'Allemagne nazie sera-t-elle bridée ou pas. Et c'était les objectifs de ce soir. Et de ce point de vue-là, Aragon a été un journaliste assez remarquable, menant des campagnes tout à fait importantes, dans une langue, la langue du grand écrivain qu'il est, qui sont extrêmement réjouissantes, et les articles sont extrêmement réjouissants à lire encore maintenant, voilà. Et puis, c'est quelqu'un quand même qui avait de la suite dans les idées, avec une information considérable. Donc, son journal, hein, son journal a été une grande réussite. Cette réussite, quand même, il faut dire qu'il la partage avec le co-directeur de l'époque, qui était Jean-Richard Bloch, un autre écrivain de très grande qualité, pas du même tempérament, pas emporté, pas polémique comme Aragon, beaucoup plus calme, mais très rigoureux dans l'analyse et dans les commentaires qu'il fait sur la réalité, et qui s'est appelé un chat, et débusqué ceux qui sont courants l'esprit tordu et qui avancent masqués. Par ailleurs, Aragon et Jean-Richard Bloch ont su quand même s'entourer d'une pléiade de brillants journalistes et ensuite d'écrivains, d'artistes de diverses sortes, de diverses catégories, qui ont apporté beaucoup de lustre à leur journal. Donc Le Quotidien ce soir a été un journal de combat, et c'est d'ailleurs pour ça, hein, qu'il a été mis dans la charrette des publications communistes, ce qui n'était pas officiellement, parce qu'il posait beaucoup de problèmes au pouvoir en place.
Quelles sont du coup les caractéristiques centrales du quotidien ce soir d'Aragon, qu'est-ce qui de coup pourrait encore, par exemple, être actuel quelque part pour faire un grand quotidien de ce type?
D'abord, il y a la qualité de l'information. Il faut bien se dire une chose, c'est que l'information qui est dans le journal ce soir couvre tout le spectre de l'information. Ça va des faits divers, des attentats, quand ils sont politiques, des crimes, du sport, mais aussi un plateau culturel de premier plan, avec la collaboration de philosophes, d'historiens, de chanteurs. Je vais vous donner les noms. Par exemple, parmi les écrivains, il y a Louis Guillou, Francis Jourdain, Jean Cocteau. Parmi les cinéastes, il y a Jean Renoir. Parmi les musiciens, il y a une collaboration de Darius Milhaud. Parmi les peintres, il y a André Lhote. Parmi les photographes, il y a Gerda Taro, il y a Capa. Bon. Parmi les musiciens, je vois encore un homme comme Jean Vianner qui tenait une chronique. Donc tout ça donne à ce journal un lustre dont je ne connais pas l'équivalent à l'heure actuelle. Voilà. Bon. Si je vais prendre la liste de tous les gens, de tous les écrivains qui ont donné des collaborations, je vais ralentir l'émission, donc c'est pas la peine, mais il y en a une quarantaine, voilà. Ensuite, en dehors de la variété de l'information, il y a la sûreté de l'information. Parce que Aragon est un homme, par exemple, dans les affaires étrangères, qui lit les journaux étrangers, en anglais, en allemand, en russe, et il est abonné à une revue publiée par les affaires étrangères qui donne les traductions des principaux journaux européens sur tout un tas de sujets. Il le lit, il s'en sert, il l'utilise. Ensuite, c'est un homme qui donne la parole à ses confrères, qui les cite de façon à pouvoir montrer à quel point ils ont une politique qu'ils jugent indigne contre l'intérêt national, ou bien qu'ils les citent lorsque, d'une certaine façon, ils peuvent rejoindre ses propres positions. Et par conséquent, il se place au centre d'un dispositif qui fait que sa prose est très convaincante. En plus, tout en ayant des opinions très claires sur la montée du fascisme, sur les concessions que Daladier fait à Hitler ou bien à Mussolini, il s'est donné la parole à des gens qui ne sont pas de son opinion, mais qui sont justement inquiets de ce qui est en train de se passer. Et de cette manière, il se place au centre d'un dispositif qui est la défense des intérêts démocratiques de la France, et même de l'existence de la nation française, qui est quand même confrontée à des périls qui montent, et qui d'ailleurs se réduiront par la défaite française en 1940.
Alors la défaite française, c'est en 1940, mais... Oui. Bien avant la défaite française, enfin en tout cas un an avant, il se passe quand même quelque chose d'étrange. Qu'est-ce qui se passe en fait en 1939? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui se passe à ce moment-là? Parce que c'est le moment où ce soir va être interdit. Alors.
Écoutez, je vous en parlerai du point de vue des articles d'Aragon publiés dans le Jour du Monde. Pour être clair et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce que je veux dire, on peut dire qu'en 1939, il se passe le triomphe de ceux qui veulent s'entendre avec les États fascistes. Bon, ça commence en 1938, mais ça commence un peu auparavant. Ça a commencé avec le fait que la France, et notamment Léon Blum, n'ait pas voulu soutenir la République espagnole. Or, pourtant, le co-directeur de ce soir, qui s'appelait à l'époque Jean-Richard Bloch, avait bien montré que la défaite de la République espagnole entraînerait un surcroît de difficultés, voire même la défaite de la République française. Bon. Mais ceci, on a considéré en France que c'était des affaires sans importance et que de toute manière, la France n'était pas l'Espagne. En fait, on a bien vu que la montée en puissance des troupes fascistes en Espagne, la défaite de la République espagnole a fragilisé la France. Bon. Et en fait, il se passe une autre chose, c'est que ceux qui n'ont pas voulu en fait soutenir les Espagnols ne voulaient pas non plus s'en prendre à l'Allemagne hitlérienne, parce qu'il y a quand même des équations politiques qui sont des équations politiques propres à la France, qui sont sociales. Mieux vaut Hitler que le Front populaire. Bon. Et cette politique-là a fait en sorte qu'on a mis hors jeu l'Union soviétique à partir de 1938 dans tout le règlement des problèmes européens qui sont caractérisés par l'agressivité montante de l'Allemagne hitlérienne, secondée par la puissance de l'Italie. Or, chaque fois que Daladier ou Chamberlain acceptent les exigences de Hitler, reculent par rapport aux intérêts de la France ou de l'Angleterre, Hitler est conforté dans sa position et il a des exigences plus importantes. Et on monte en puissance. Aragon ne cesse de montrer que d'échec en échec, on augmente la puissance hitlérienne. Ça, c'est un fait qui est comme ça. Ensuite, il y a le fait que pourrait intervenir dans cette affaire européenne le rôle de l'Union soviétique. Or, tant Daladier que Chamberlain ont tout fait pour le minorer. Par exemple, ils les ont soigneusement exclus des négociations qu'ils ont menées d'eux-mêmes de façon particulière avec Hitler sur la Tchécoslovaquie. Déjà, on n'avait rien dit sur l'Anschluss. Bon, mais la Tchécoslovaquie, c'est quand même donner un pays qui est indépendant et souverain à l'Allemagne hitlérienne.
Qui était un allié.
À Munich.
Et qui était un allié.
L'Union soviétique est tenue à l'écart de tout ça, au mépris de ses intérêts et surtout au mépris du rôle qu'elle aurait pu jouer.
Tout à fait. Que d'ailleurs, elle a tenté de jouer, mais la Pologne, mangé une partie du territoire tchécoslovaque, avait refusé.
Si on ajoute, en dehors de l'appétit fondamental de l'Allemagne hitlérienne, les petits appétits particuliers de la Hongrie ou de la Pologne, qui vont en profiter pour prendre un morceau de la Tchécoslovaquie puisqu'elle est à terre, bon, on a un panorama de la situation européenne telle qu'elle se présente et de la responsabilité de la France et de l'Angleterre dans cette affaire. Bon. Mais la plus grande responsabilité et le plus grand problème, c'est quand même d'avoir tout fait pour que l'Union soviétique soit tenue à l'écart de ses affaires. Bon. Et enfin, on se rend compte que la diplomatie française, quand elle est convaincue de son échec patent devant la Tchécoslovaquie, au lieu de prendre conscience et de faire un revirement de position, elle fait un simulacre de négociation avec les Russes à Moscou en 1939. Bon. Et là, quand même, apparaît très clairement le fond du problème. On envoie une délégation franco-britannique à Moscou qui n'a pas le moindre élément pour discuter d'une alliance militaire, car maintenant, face aux exigences allemandes, c'est bien d'une question militaire qu'il est question, et pas d'autre chose. Et la négociation à Moscou montre que ni la France ni l'Angleterre ne veulent d'une alliance avec l'Union soviétique contre l'Allemagne.
Et donc, nous reprendrons
le renversement de la situation est patent.
Donc, dans la deuxième partie, pour voir ce qui va se passer à partir donc de cette date de 1939 pour Louis Aragon et les journaux qu'il a dirigés. À tout à l'heure. Donc après le journal régional, on se retrouve dans 8 à 10 minutes. À tout de suite.